France Culture.
D'abord, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Bonjour Marie, donc, et bonjour à toutes et à tous. Et nous serons dès le début du journal à Séoul, où les Sud-Coréens sont appelés depuis ce matin à voter pour tourner la page de 6 mois de chaos politique. On se rendra également à Jérusalem après un nouveau bilan de 27 morts dans des tirs israéliens près d'un centre d'aide humanitaire. La mort en France d'un Tunisien de 46 ans samedi dernier serait-elle le fruit d'une atmosphère latente dans le pays depuis plusieurs mois, voire quelques années? C'est ce que dénonce ce matin l'avocat de la famille de la victime. Par ailleurs, une proposition de loi sur le métier d'infirmier examinée cet après-midi à l'Assemblée. Enfin, les objectifs de développement durable des grandes entreprises sont-ils une cause perdue? On posera la question à notre invité aujourd'hui, Niels Pedersen, délégué général du Pacte mondial de l'ONU. Loi martiale, mandat d'arrêt, procès en destitution, remise en liberté et nouvelle inculpation. Après 6 mois de rebondissements judiciaires et de chaos politique marqués par des manifestations massives et une succession inédite de dirigeants intérimaires, les Sud-Coréens sont donc appelés à voter depuis ce matin pour désigner leur nouveau président. Dans ce scrutin à un seul tour, largement perçu comme un référendum sur l'administration sortante, le chef de l'opposition de centre-gauche, Lee Jae-myung, apparaît comme le grand favori. À 61 ans, cet ancien ouvrier s'était notamment distingué au plus fort de la crise, le soir même de la loi martiale, en diffusant en direct sa course effrénée vers le Parlement pour voter une motion mettant en échec le coup de force du président Yoon Suk-yeol. Et puis à l'inverse, le candidat de la droite conservatrice Kim Moon-soo, lequel a lui toujours refusé de s'excuser au nom de son parti pour la désastreuse tentative de l'ancien président, espère exploiter son entêtement et sa nouvelle notoriété pour ravir le pouvoir. C'est une correspondance à Séoul, signée Celio Fioretti.
Les bureaux de vote s'apprêtent à fermer dans une trentaine de minutes. Une journée électorale où les Sud-Coréens étaient au rendez-vous avec presque 80% de participation. Le pays connaîtra très bientôt le nom de son prochain président. Le favori en lice, Lee Jae-myung, 61 ans, leader du Parti démocrate de centre-gauche. Crédité de 50% des intentions de vote dans les derniers sondages, il pourrait prendre sa revanche sur le dernier scrutin présidentiel qui lui avait échappé de 0,7% des voix. Face à lui, Kim Moon-soo, 73 ans, du Parti conservateur, ancien ministre du Travail du président destitué Yoon Suk-yeol, il s'est fait remarquer pour sa ligne de droite radicale, n'hésitant pas à embrasser les théories conspirationnistes selon lesquelles la Corée du Nord aurait infiltré le parti d'opposition. Une campagne qui a été plus difficile pour le candidat conservateur, crédité à 36% des intentions de vote la semaine dernière. Peu importe le vainqueur du scrutin, ce dernier prendra ses fonctions dès demain pour rattraper au plus vite 6 longs mois d'instabilité politique qui ont mis à mal l'économie du pays.
Un simulacre de négociation.
Est-ce parce que Vladimir Poutine s'était étranglé de colère au lendemain de l'attaque massive de drones menée contre son pays, ou bien plus probablement parce que le maître du Kremlin n'a jamais eu l'intention en réalité de mettre fin à son invasion en Ukraine? Toujours est-il qu'hier, le deuxième cycle de discussions organisées en Turquie entre Moscou et Kiev s'est soldé par un échec. Une heure à peine seulement après son ouverture, tout juste les deux délégations sont-elles convenues d'échanger de nouveaux prisonniers de guerre ainsi que des milliers de corps de soldats tué. Pour le reste, pas le moindre accord sur un quelconque cessez-le-feu, ou dit autrement, ça n'est pas autour d'une table, mais bien sûr le champ de bataille que devrait encore pour l'instant du moins se décider l'avenir de ce conflit. La logique d'éradication prônée par le gouvernement de Benjamin Netanyahu continue de s'appliquer dans cet enfer absolu que constitue la bande de Gaza dévastée et affamée. Pas un jour ne se passe sans que la distribution de l'aide humanitaire ne tourne au fiasco. Au moins 15 personnes ont encore été tuées ce matin à proximité de l'un des 400 de distribution installée par une organisation pilotée par les États-Unis et Israël, critiquée pour son manque d'impartialité et de transparence. Ils étaient 31 à avoir trouvé la mort dimanche dernier. Autant d'attaques qualifiées aujourd'hui de crimes de guerre par l'ONU. Les précisions depuis Jérusalem de notre correspondant Thibault Lefebvre.
Comme dimanche, la foule affamée rassemblée à proximité d'un des 4 centres de distribution a essuyé des tirs mortels. Même lieu, le rond-point d'Al-Alam, au sud de l'enclave, au nord-ouest de la ville dévastée de Rafah, à moins d'un kilomètre d'un des 4 centres de distribution de nourriture de la Fondation humanitaire pour Gaza. Et même conséquence, 31 morts dimanche selon les autorités locales, au moins 15 tôt ce matin. Une différence cependant entre les deux événements. Cette fois, l'armée israélienne a reconnu être à l'origine des tirs. Dans un communiqué, elle précise avoir d'abord effectué des tirs de sommation, puis avoir ensuite ciblé des suspects présumés qui s'approchaient, selon ses porte-paroles, des positions de ses soldats. Yahya était au milieu de la foule dimanche matin.
On doit parcourir 10 km à pied pour atteindre les centres de distribution. Et à la fin, ils nous tirent dessus. Ils nous traitent comme un troupeau, comme du bétail. Et ils nous tuent s'ils le veulent. Mais d'abord, ils souhaitent nous voir mendier leur aide.
Et c'est exactement le scénario catastrophe qu'anticipaient les agences de l'ONU et les ONG, avec donc des points de distribution loin de la population et des mouvements de foule hors de contrôle. La Fondation humanitaire pour Gaza affirme de son côté ne pas être responsable du chaos à l'extérieur de ces structures.
Midi passé de 35 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Le parquet national antiterroriste a fini par se saisir hier de l'enquête sur le meurtre samedi dernier dans le Var d'un homme de nationalité tunisienne, un coiffeur de 46 ans, assassiné par un voisin lequel a revendiqué son acte dans des vidéos publiées sur Facebook. À plusieurs reprises déjà, le suspect avait tenu sur les réseaux sociaux des propos racistes et appelait notamment les Français à s'en prendre aux étrangers, plus particulièrement aux Maghrébins. Il avait d'ailleurs par le passé blessé un autre homme de nationalité turque, cette fois-ci une violence ostensiblement raciste donc, et qui s'inscrit dans un climat qu'il est tout autant, estime aujourd'hui l'avocat de la famille. Wafia Kenich, bonjour. Pour Mourad Batik, qui est également l'avocat d'Aboubacar Cissé, ce jeune malien tué il y a moard d'un mois dans une mosquée du Gard, ce nouveau meurtre serait le fruit d'une atmosphère qui existe dans le pays.
Une atmosphère qui, selon l'avocat, se durcit depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, comme il l'expliquait à nos confrères de France Info ce matin.
Personne n'est dupe sur le contexte et le climat politique qui règne aujourd'hui en France. Et évidemment, ce bras armé, cet individu, il est le fruit d'une atmosphère. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de ce dossier et c'est heureux. Ça veut dire qu'on est face à une idéologie, on est face à une préméditation, on est face à un individu qui agit avec une idéologie profonde.
Une idéologie puissée dans des discours, des contenus produits par des mouvements politiques d'extrême droite. Et c'est d'ailleurs la première fois que le parquet antiterroriste se saisit d'une affaire liée à ce type de groupuscule, ce que regrette Maître Batik.
J'avais tiré une première sonnette d'alarme sur le dossier d'Aboubacar Cissé en disant au parquet national antiterroriste « Attention, ça n'est pas un cas isolé, attention, ce qui est en train de se passer est le fruit de quelque chose de plus large qui est en train de nous dépasser. Il faut se demander comment est-ce que des individus arrivent au crime le plus odieux qui est de retirer la vie au nom du drapeau français. Enfin, on est en pleine folie, on est en pleine cacophonie. »
Ce que souligne aussi Olivier Faure, le patron du PS, accuse le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau d'entretenir un racisme d'atmosphère.
Merci Wafia Kenich. La mort du jeune Naël, 17 ans, en 2023, avait choqué l'opinion publique jusqu'à devenir le symbole des violences policières et à l'origine de plusieurs nuits d'émeutes à travers la France. On vient de l'apprendre, le policier auteur du tir mortel sera jugé pour meurtre.
Adoptée à l'Assemblée nationale début avril avec l'appui de l'exécutif, la réforme du mode de scrutin municipal pour Paris, Lyon et Marseille arrive au Sénat à partir d'aujourd'hui.
Et les débats n'ont pas encore commencé que déjà la proposition de loi d'origine macroniste risque d'être très largement désavouée, tout d'abord parce que la droite y est hostile, à l'exception notable d'une certaine Rachida Dati pressentie justement pour candidater à Paris. Ensuite, l'immense majorité de la gauche n'y est pas favorable et enfin même le bloc central peine à y trouver son compte et pour cause, chaque parti a sorti la calculette pour essayer d'anticiper l'impact de cette réforme sur son score municipal de mars 2026. Bref, un contretemps majeur pour le gouvernement à moins d'un an du scrutin.
Direction l'Assemblée à présent, où la proposition de loi sur le métier d'infirmier doit entrer cet après-midi dans sa dernière ligne droite parlementaire.
Oui, le texte déjà voté par les députés et les sénateurs en première lecture doit y être examiné en commission mixte paritaire. A priori, un consensus devrait y être trouvé assez facilement. Il faut dire que la question de l'urgence à redéfinir les contours de cette profession qui compte aujourd'hui plus de 135 000 personnes en libéral ne souffre pas franchement la contradiction. Alors que trouve-t-on dans cette proposition de loi? Le texte, Tara Schlegel, précise notamment ce que doit être le diagnostic infirmier.
C'est une réforme historique, affirme d'emblée Daniel Guilherme. Elle consacre le diagnostic infirmier qui diffère de celui du médecin, explique le président du syndicat national infirmier.
La prise en charge globale, effectivement, elle est de plus en plus rare en fait, chez les médecins parce qu'ils n'ont plus le temps. Donc, dans ce cadre-là, nous, on peut apporter notre expertise. C'est que 98% de notre activité, on l'effectue au domicile des patients. Donc, on voit des choses que les autres professionnels de santé ne voient pas. Par exemple, vous pouvez avoir des addictions, en fait, dans la famille. Vous pouvez avoir des problèmes de maltraitance. Donc, c'est vraiment apporter notre pierre à l'édifice pour améliorer la prise en charge de ces patients.
Et puis, il y a l'éducation thérapeutique. Exemple, un patient qui prend des diurétiques pour ses jambes gonflées, mais qui redoute d'aller tout le temps aux toilettes.
Vous avez des patients qui, quand ils sortent de chez eux, se disent « je ne veux pas être embêté, je ne vais pas prendre mon médicament ». Et donc ces gens-là, quand ils constatent leur œdème augmenté, vont voir le médecin. Et le médecin dit « ah ouais, effectivement, je vais augmenter les doses ». Et vous voyez le cercle vicieux dans lequel on s'installe.
Le mésusage des médicaments coûte 10 milliards à l'assurance maladie par an, ajoute Daniel Guilherme. De son côté, le professeur Paul Frappé, qui préside le Collège de médecine générale, se félicite de la future collaboration infirmière. Pas plus tard que la veille, il avait visité un diabétique dont il fallait augmenter l'insuline.
L'infirmière était là, alors c'était une grande chance. On a fait la visite en même temps chez ce patient. Et on a pu discuter pour essayer de savoir un petit peu déjà quel était le régime alimentaire actuelle, réelle de ce patient. Elle a cette connaissance et un regard extérieur qui n'est pas le même. Donc tout ça est sécurisant pour le patient.
Il faudra peut-être rassurer certains confrères de Paul Frappé, mais en redéfinissant bien le rôle propre des infirmiers, le binôme infirmier-médecin ne pourra être que bénéfique à un système de santé exsangue.
Prise au piège de leur propre stratégie.
Parce qu'il s'oppose au chantier de l'autoroute A69 censée relier Castres et Toulouse, non seulement insoumise et écologique, avait déposé hier la quasi-totalité des quelques 700 amendements rendant quasiment impossible un vote de l'Assemblée avant minuit. Mais LFI avait également choisi de déposer préalablement une motion de rejet du texte. Or, cette motion a été approuvée à la quasi-unanimité, y compris donc par les groupes du socle commun et de l'extrême droite, partisans, eux, du projet. Et pourquoi ? Parce que le vote de cette motion a pour effet d'accélérer le parcours législatif du texte en l'envoyant directement devant une commission mixte, évitant ainsi les débats dans l'hémicycle. Alors, il se trouve que pas plus tard que la semaine dernière, les députés du socle commun et du RN avaient, dans une tactique assez proche, déjà adopté eux-mêmes une motion de rejet pour faire progresser un autre texte clivant, comprenant notamment la réintroduction de pesticides. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Comment analyser, Antoine, cette nouvelle stratégie permettant donc de court-circuiter les débats à l'Assemblée ?
Eh bien, pour le moment, chacun se renvoie la faute. La présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, accuse ses adversaires de détourner la motion de rejet en 49-3 parlementaires. Elle menace de saisir le Conseil constitutionnel pour atteinte à la sincérité des débats et au droit d'amendement. Et en face, le rapporteur Renaissance, Jean Terlier, qui a soutenu la motion de rejet, parle d'obstruction de LFI et des écologistes et il raille dans cette affaire l'arroseur arrosé. Les écologistes et LFI ont déposé, vous l'avez dit, plus de 700 amendements. Un peu plus de 230 ont été déclarés recevables. Amendements multiples, plus motion de rejet de LFI. C'est un cocktail qui s'est révélé contre-productif, ce qui avait été anticipé par les écologistes. Ils avaient demandé à LFI de retirer la motion de rejet en vain. Les deux groupes sont d'accord sur le fond. Ils dénoncent un passage en force pour un projet d'autoroute qui longe une route nationale qui aurait pu être réaménagée, selon eux. Ils dénoncent également une volonté d'écraser une décision judiciaire qui avait invalider les autorisations environnementales. Le socle commun et le RN ont voté la motion pour éviter que l'examen de la proposition de loi soit reporté à une date indéterminée. La commission mixte paritaire devrait parvenir à un texte commun car la gauche y est minoritaire. Les pro-A69 ont donc gagné une bataille. Reste à connaître la future décision du Conseil constitutionnel.
Merci Antoine Maret. Et à présent, un anniversaire, le 25e du Pacte mondial des Nations Unies, cette initiative visant à inciter les entreprises du monde entier à s'engager sur les 10 principes de développement durable fixés par l'ONU. Une rencontre est organisée aujourd'hui au Parc Floral de Paris. Au total, 2000 entreprises responsables du réseau France ont été conviées sur place et c'est là-bas que nous retrouvons donc notre invité aujourd'hui, Niels Pedersen, délégué général du Pacte mondial de l'ONU. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Annabelle Brolier.
Bonjour
Annabelle.
Bonjour Thomas. Alors Niels Pedersen, le pacte a été créé en 2000, 25 ans aujourd'hui. En 2015, vous avez fixé 17 objectifs de développement durable pour les entreprises. Vous pouvez peut-être nous en citer quelques-uns ?
Alors tout à fait, donc dans les 17 ODD, comme on dit dans notre jargon, on peut citer l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple, qui est un sujet important, la consommation responsable, on en parle beaucoup sur vos antennes, et puis on parle aussi des enjeux climatiques, et c'est la semaine des océans, la semaine prochaine à Nice, donc les enjeux aquatiques, et plus largement la place des océans et de l'articulation que les humains peuvent avoir avec les océans. Quelques exemples de très concrets, d'objectifs. L'objectif pour nous est de montrer l'articulation des uns entre les autres. On est très bon dans des actions climatiques, mais avoir des impacts négatifs sur les océans. Et à l'inverse, on peut être très bon sur les enjeux de consommation responsable, mais par exemple être très mauvais sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce qui est important pour les Nations Unies, c'est de montrer que l'ensemble de ces sujets sont interconnectés et que l'entreprise a une responsabilité dans ce qu'on appelle ses impacts positifs, mais aussi dans ses impacts négatifs. Et au travers du Pacte mondial des Nations Unies, de pouvoir apporter des réponses et des solutions pour les corriger.
Alors le pacte donc veut accélérer la transformation des modèles d'affaires. Il s'agit donc de mettre en place des bonnes pratiques. Nous avons aujourd'hui presque 2000 entreprises présentes. Hein. Il y a les patrons de l'armateur CMA-CGM, Michelin, Carrefour. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques bonnes pratiques, quelques exemples qui ont été mis en place ?
Quelques exemples très concrets dans le cadre de CMA-CGM. Les émissions de gaz à effet de serre pour le transport maritime, c'est 3% des émissions mondiales. Donc on peut décarboner au travers déjà des gaz liquides, liquéfiés, du méthane ou d'autres pratiques. Sur la pratique des peintures, par exemple, sur les coques de bateaux, de poser des voiles. Dans le cadre de Michelin, le salaire descend, par exemple. Michelin est une entreprise 130 000 salariés dans le monde au travers de 80 pays.
Qui licencie en ce moment ?
Alors, qui aujourd'hui transforme son modèle en France. Sur deux sites, effectivement, sont transformés parce que la production aujourd'hui ne répond plus à des besoins au niveau européen. Mais au niveau mondial, sur les 80 sites, accompagne ses salariés et leurs familles à vivre plus dignement. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas le salaire minimum fixé par la loi, mais c'est un salaire qui va au-delà, qui permet à une famille de 4 personnes de vivre dignement sur l'ensemble de l'année. Et ça, ce sont des exemples très concrets mis en œuvre par les entreprises.
Alors, le pacte mondial n'est pas, j'allais dire, coercitif. C'est vraiment sur la base du volontariat. Les entreprises y adhèrent si elles veulent. Est-ce que c'est pas juste une belle vitrine ?
Alors, c'est un engagement volontaire, mais qui rencontre, l'entreprise rencontre chaque année des démarches de progrès qu'elle met en œuvre. Quand l'entreprise ne rend pas compte de ses progrès auprès de ses parties prenantes, l'entreprise est délistée et ne fait donc plus partie de la grande famille du pacte mondial. Donc, comme ce n'est pas une norme, ce n'est pas un label, c'est un véritable engagement volontaire qui permet une articulation entre les lois, les réglementations, les règles dans les pays et d'aller plus loin, comme le salaire décent ou la décarbonation.
Alors, dans le contexte actuel, hein, à l'ère Trump, où le dérèglement climatique, l'environnement ne semble plus un sujet, comment l'ONU avance justement sur ce développement durable, les objectifs ont été visés pour 2030. Donc on en est où ?
2030, c'est demain. L'ONU, vous l'avez dit, souhaite vraiment rappeler que nous sommes dans une communauté de destin. Le sort des uns dépend du sort des autres, à la fois pour les États, pour la société civile et pour les entreprises. Et donc l'ONU incite à la coopération au travers des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, effectivement, seuls 17% des objectifs de développement durable à date sont atteints. La marche est effectivement haute d'ici 2030, mais il faut garder espoir, il faut agir. Je crois que l'immobilisme n'est pas une option aujourd'hui dans le monde. Il y a effectivement certains pays qui ont des politiques qui détricotent un certain nombre d'accords internationaux, l'accord de Paris par exemple, ou les objectifs de développement durable. Pour autant, nous sommes une communauté d'acteurs mondiaux et encore une fois, nous ne pouvons pas ne pas agir, chacun à son échelle.
Alors justement, Trump n'avait pas signé ce pacte mondial déjà à sa première élection.
Alors, Trump avait effectivement signé les accords de Paris dans son premier mandat et s'est désengagé. Effectivement, on peut le regretter. Effectivement, l'administration Trump remet en cause également les objectifs de développement durable. Mais pour autant, on le voit bien dans les chaînes de valeur mondiale. En fait, ce qui se passe aux États-Unis a un impact en Europe ou dans le monde. Si vous prenez un produit quel qu'il soit, passe par exemple les États-Unis, passera par le Canada, par le Mexique, par la Chine, par le Vietnam. Et donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'économie est profondément mondialisé et on a donc besoin d'un cadre cohérent. Et les objectifs de développement durable donnent justement ce cadre, cette grammaire commune qui permet à chacun des acteurs de bien comprendre les enjeux qui sont en cours.
Alors les objectifs 2030, on ne les atteindra pas, on a compris. Mais une petite note positive rapidement pour terminer.
positive. L'engagement est là, les entreprises s'engagent, les entreprises apportent des solutions concrètes et je pense qu'il faut se réjouir que le secteur privé, partout dans le monde, plus de 25 000 organisations engagées au Pacte mondial des Nations Unies, essayent tous les jours de faire en sorte que le monde aille un peu mieux.
Niels Pedersen, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes délégué général du Pacte de l'ONU qui fête donc aujourd'hui son 25e anniversaire au Parc Floral de Paris. C'est à vous, Thomas.
Et merci à vous, Annabelle Grelier, ainsi qu'à Raymond Albouy pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Un ciel clément, à l'exception d'un axe perturbé du sud-ouest aux frontières de l'est. 9 départements du centre-est ont été placés en vigilance orange aux orages et 5 autres dans le sud-ouest. Quant aux températures, elles seront comprises entre 15 et 29 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.